peut-être ?
Oui.
Wow. Mais tu sais quoi, Anna, t'as beaucoup de chance, parce que dans 10 ans, tu te rappelleras encore de ce message. Ah oui. Dans 10 ans, si on te dit, mais tu te rappelles le jour où il y a un prédicateur qui a prêché sur le baptême de Jésus, là, à l'Épette, tu vas dire, non, ça me dit rien. Mais si, rappelle-toi, c'est le jour où l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde. Ah mais oui, je m'en souviens de ce jour-là. Ah, il y a des jours comme ça dont on se souvient longtemps. Moi, je me souviens du 12 juillet 98. Tous les Français s'en rappellent. Tout le monde se rappelle du 11 septembre 2001. Tout le monde sait ce qu'il faisait au moment où il a vu ces images sur sa télé. Il y a des jours qui marquent une vie comme ça. Et ce qu'on va lire ce matin, bah, je pense que toutes les personnes qui ont vécu ce jour-là, je pense qu'ils ne l'ont jamais oublié. Parce que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc chapitre 1, versets 9 à 12. Vous allez voir que ce n'est pas un jour comme les autres. Marc chapitre 1, verset 9. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Je priais. Seigneur Dieu, tu nous donnes l'occasion ce matin d'étudier un jour particulier de la vie de Jésus. Et je te prie vraiment que cela reste gravé dans nos mémoires. Que Seigneur, ce jour particulier où nous n'étions pas, Seigneur, nous puissions quand même nous en rappeler de ce que tu as fait ce jour-là et de pourquoi tu l'as fait. Je te prie, Seigneur, que ton esprit nous dirige ce matin dans ce message et nous enseigne, que tu puisses nous éclairer dans toute ta vérité, dans le nom de Jésus. Amen. Alors on vient de lire le tout premier récit écrit de la toute première apparition publique de Jésus. Oui, parce que Marc, l'évangile de Marc est le premier évangile qui a été écrit. Et je pense que pour des milliers de gens, ces quelques mots, ce sont les premiers mots qu'ils ont lus parlant de Jésus, de la vie de Jésus. Et sincèrement, ils ont dû être un peu paumés en lisant ça. La première phrase qu'ils ont lue présente Jésus comme un homme complètement ordinaire. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Les deux suivantes le présentent comme un homme extraordinaire, pour qui s'accomplissent des signes incroyables. On voit au verset 10 et 11. Les gens qui ont lu ça pour la première fois, ils ont dû se dire, mais c'est qui ce gars ? Marc, il a écrit son évangile pour mettre en relief la gloire, la grandeur divine de la personne de Jésus-Christ et produire l'étonnement, l'admiration. Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est qu'il se présente à Dieu comme un homme ordinaire. Et cela fait toute la différence pour nous. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, car c'est le cœur de ce que nous disent ces 4 versets sur le début du ministère de Jésus. Jésus n'est pas un homme ordinaire, mais il se présente comme un homme ordinaire pour faire la joie de Dieu. Je vous propose de comprendre ce mystère en passant par 3 questions très simples qui vont nous guider pendant qu'on découvre ce texte. Que vient faire Jésus ? Pourquoi il le fait ? Et qu'est-ce que ça change ? Que vient faire Jésus ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça change ? Jésus, que vient-il faire dans notre passage ? Eh bien, en fait, il vient prendre la place d'un coupable, d'un homme coupable. C'est ça que nous montre ce passage. Regardez avec moi le verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Ceux qui étaient là lorsqu'on a vu le début de ce chapitre il y a quelques mois, ils se rappellent que le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance pour le pardon des péchés. On le voit dans le verset 4 du premier chapitre. Jean parut, il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon des péchés. Jean criait aux gens dans le désert de faire demi-tour, de reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils n'ont aucun droit à faire valoir devant Dieu et qu'ils ont besoin d'être sauvés de leurs fautes. Alors les gens qui le souhaitaient, eh bien, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Verset 5. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean leur disait également, « Moi, je ne suis rien. Je suis juste le gars qui vous baptise dans de l'eau. Celui dont vous avez besoin, c'est celui qui arrive. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Alors, je reviens à notre texte, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus semble finalement être un homme ordinaire comme les autres, qui vient se faire baptiser par Jean. Pourtant, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, l'homme parfait. L'Écriture nous dit qu'il n'a jamais péché. Si vous ouvrez vos Bibles en Hébreux, chapitre 4, verset 14, on voit cela. Hébreux 4, 14. « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. » On le voit également en 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus n'a pas connu le péché. Il n'a jamais commis de faute. Il est l'homme parfait, selon le cœur de Dieu. Alors expliquez-moi, pourquoi il se tape 100 km à pied depuis Nazareth pour se faire baptiser pour le pardon des péchés ? C'est loin d'être une question évidente. Il semble qu'il y ait quelque chose de pas normal. Alors je vais vous partager ce qui, personnellement, m'a mis sur la voie pour comprendre ce baptême. Un indice qui m'a débloqué dans mon incompréhension face à ce texte. Cet indice se trouve dans ce même évangile de Marc. Et il s'agit d'une phrase dans laquelle Jésus lui-même prononce le mot baptême. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, apparemment pas. Marc 10, verset 36. C'est pas un passage auquel on pense forcément lorsqu'on parle de baptême. Pourtant, c'est dans cette occasion que Jésus parle d'un baptême. Marc 10, verset 36. Donc c'est Jésus qui parle, qui dit à ses disciples, « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ta gloire. Mais Jésus leur dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ? Jésus nous parle ici d'un baptême qu'il va subir. Et dans le contexte, il est évident qu'il parle de sa mort prochaine. Jésus s'apprête à mourir pour le jugement des péchés. Pourtant, Jésus n'a pas commis de péché, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'a donc pas à mourir pour le péché. Mais il choisit de s'identifier à un pécheur et de mourir tel un pécheur. De la même manière, Jésus n'a pas de péché, il n'a pas à se faire baptiser pour le pardon des péchés. Mais il choisit de le faire parce qu'il souhaite se présenter à Dieu comme un homme coupable, comme un homme comme tous ceux qui viennent de se faire baptiser auparavant. Que vient faire Jésus ? Eh bien, nous le voyons dès sa première apparition publique. Jésus vient prendre la place des coupables. Jésus aurait pu commencer son ministère en disant « Regardez, je suis entièrement saint, je n'ai commis aucune faute, je ne fais que ce qui plaît à Dieu, alors obéissez-moi. » Il aurait pu dire à Dieu « Regarde, Père, je n'ai jamais péché contre toi, alors donne-moi ta bénédiction, ton approbation. » Mais Jésus renonce à cela. Il s'identifie entièrement au pécheur. Parfois, il nous arrive de venir devant Dieu avec les bras chargés de nos propres œuvres. Seigneur, regarde ce que j'ai fait de bon. Je n'ai pas trop péché aujourd'hui. On croit souvent que la bénédiction de Dieu, elle repose sur notre bonne attitude, sur ce qu'on fait de bien pour Dieu. Mais Jésus, il est la preuve vivante que c'est tout le contraire. Il renonce à toutes ses œuvres bonnes pour se présenter devant Dieu les mains totalement vides. Il préfère de loin avoir les mains libres pour recevoir ce que Dieu va lui donner. Et ça, c'est un cœur véritablement repentant. Seigneur, je n'ai rien à t'apporter, mais je m'abandonne à toi, à ta grâce. Jésus s'est identifié à un homme pécheur, sans revendication, totalement dépendant de Dieu. Et cela répond à notre première question. Qu'est-ce que Jésus vient faire ? Eh bien, il vient être compté parmi les coupables, comme l'avait annoncé Ésaïe, en Ésaïe 53, verset 12. La question est donc maintenant de savoir pourquoi fait-il cela ? La réponse que nous donne ce texte, c'est que Jésus fait cela pour réjouir Dieu. Verset 10, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » On voit là trois signes complètement extraordinaires. Le ciel qui se déchire, l'Esprit qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, la voix qui retentit du ciel, il n'y a pas de doute. Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Les cieux se déchirent devant lui. Ça veut dire qu'il a une vision directe de ce qui se passe dans le ciel. Et c'est normal finalement, puisqu'il vient du ciel. L'Esprit de Dieu vient demeurer sur lui. Ça, c'est un deuxième signe qu'il est le Messie. Cherchez avec moi Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2. Ésaïe 11, verset 1. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Ésaïe 42, verset 1. Encore une prophétie à propos du Messie. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Ésaïe 31, verset 1. C'est pas le bon verset. C'est pas grave, on en a déjà deux. Qui nous montre que le Messie est celui sur lequel repose l'Esprit de Dieu. Et c'est vraiment un signe pour reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Et puis il y a le troisième signe, encore plus évident. Dieu lui-même qui fait entendre sa voix, qui reconnaît Jésus comme son fils bien-aimé. Mais alors j'aimerais attirer votre attention sur deux détails très importants par rapport à ces trois signes et qui leur donnent vraiment une signification particulière. Premièrement, on voit au verset 9, non, 10, pardon. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer, etc. C'est au moment où Jésus sort de l'eau, de son baptême, que ces trois signes extraordinaires ont lieu. Deuxième détail, ces deux signes s'adressent à Jésus directement. On voit que c'est marqué « Il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » C'est très différent de la fois où on entend Dieu lors de la transfiguration de Jésus. On le voit en Marc 9, verset 7. « De la nuée sortit une voix, je vous le lis directement, de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Vous voyez la différence entre nos deux passages. Là, nous avons « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » En fait, nous déduisons de ces deux détails que ces signes extraordinaires sont tout d'abord une conséquence du baptême de Jésus et qu'ils sont un message que Dieu adresse directement à son Fils, un message d'approbation. Tu viens de t'identifier aux pécheurs en te faisant baptiser comme l'un d'eux. Eh bien, moi, j'approuve ce que tu viens de faire. Et même, je m'en réjouis. Tu as mon feu vert. Mon esprit est pour toi, est sur toi pour t'aider dans ce que tu veux accomplir. Voilà, en fait, ce que Dieu dit à son Fils à ce moment précis, au travers de ses signes. Qu'est-ce que c'est bon quand Dieu nous dit ça ? J'approuve ce que tu fais. Je me réjouis de ce que tu fais. Je te donne mon esprit pour t'aider. Jésus a dû être vraiment heureux en voyant ces signes extraordinaires car il savait que son Père se réjouissait. Et ça, c'est ce que recherche Jésus en permanence, la joie de son Père. Quel réconfort ça a dû être pour lui de voir que cet abaissement, cette humiliation, que de vivre tel un homme pécheur, ben ce n'est pas vain, mais ça réjouit Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on suit Dieu, il y a parfois des décisions difficiles à prendre, des choses auxquelles on doit renoncer, et ça nous pèse. Une relation, un job, une ville, des amis, des fois Dieu nous appelle ailleurs. Des fois, il nous appelle sur des chemins où on n'a vraiment pas envie d'aller. Quand c'est le cas, sachons lever les yeux vers Dieu et prendre la décision en nous disant que c'est la décision qui réjouit notre Père. Mon Dieu est en train de se réjouir de ce que je prends cette décision difficile, de ce que je pars sur ce chemin compliqué. Jésus n'avait pas envie d'être compté parmi les coupables, alors qu'il n'avait commis aucune faute. Mais il a fait cela pour Dieu, pour réjouir Dieu. Et ce qui réjouit Dieu, c'est ce qu'il réjouit aussi. C'était important pour Jésus, alors qu'il commençait son ministère public, de savoir qu'il avait l'approbation de Dieu. On ne devrait jamais rien faire sans avoir la certitude que c'est agréé par Dieu. Alors, dans un instant, nous allons voir qu'est-ce que ça change que Jésus prenne la place d'un pécheur. Mais avant, je tiens à faire une précision, parce que je ne veux pas que vous repartiez d'ici en croyant que Dieu est un sadique, ou en pensant que moi, je le pense. Je n'arrête pas de dire que Dieu se réjouit que son fils s'identifie à un coupable et lui donne son approbation, alors qu'il s'engage sur un chemin qui va finalement le mener à la mort. Mais si Dieu se réjouit, c'est parce qu'il sait la conséquence de ce qu'est en train de commencer son fils. Et la conséquence, c'est celle-ci, c'est que tout homme peut être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est le désir le plus profond de Dieu. Que nous soyons réconciliés avec lui, que la relation entre nous et lui soit rétablie. Ce qu'est en train d'accomplir son fils depuis son baptême dans le Jourdain, jusqu'au baptême de sa mort et de sa résurrection, tout cela, ça rend possible la réconciliation. Et c'est ce qui réjouit Dieu. On le voit en Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On le voit aussi en 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 6. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La volonté de Dieu, ce qui fait son bonheur, sa joie, c'est que nous soyons en paix avec lui. Et cela n'est possible que par l'unique médiateur, Jésus-Christ, venu accomplir la volonté de Dieu en prenant la place des coupables. Alors pourquoi Jésus prend-il la place d'un homme coupable ? Car cela réjouit le cœur de Dieu, qui veut que tous les hommes soient en paix avec lui. Passons maintenant à la dernière question. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Bien sûr, on vient de le voir, ce que ça change, c'est que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est déjà énorme. Mais il faut savoir que ça va bien au-delà de ça. Laissez-moi vous partager trois illustrations avant d'examiner cette question. John Owen, un pasteur du XVIIe siècle, a écrit « Aussi robuste que puisse être un château, s'il abrite un traître dans ses murs, prêt à trahir à la première occasion, la forteresse ne restera pas longtemps à l'abri de l'ennemi. » Des traîtres occupent notre cœur, prêts à se mettre du côté de n'importe quelle tentation et à se rendre à toutes. John Eldredge, écrivain américain, a écrit « Certes, une guerre fait rage en nous. Mais c'est une guerre civile. Il ne s'agit pas d'une guerre entre nous et Dieu. Il y a un traître en nous qui lutte contre notre vrai cœur, défendu par l'Esprit de Dieu. » Troisième illustration, C.S. Lewis qui disait « Un territoire occupé par l'ennemi, voilà ce qu'est le monde. » Un territoire occupé par l'ennemi. Pourquoi ces trois illustrations ? Parce que les deux versets qui suivent, les deux derniers versets de notre passage, nous parlent de tentation et nous parlent de Satan. Lisons les versets 12 et 13 de Marc chapitre 1. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. On remarque tout de suite que c'est l'Esprit qui pousse Jésus dans le désert, où il va être tenté par l'ennemi. Encore une fois, la volonté de Dieu, c'est que Jésus passe par le même chemin que celui que nous empruntons chaque jour, celui du combat avec la tentation. La tentation, ce n'est pas un péché, puisqu'on voit que Jésus est tenté lui-même. Le péché, c'est bien sûr de céder à cette tentation. Et Jésus est donc dans ce désert, entouré de bêtes sauvages, et Satan vient le tenter. On a là un parallèle très fort avec ce que Adam a vécu. Un commentateur a même écrit « Le serpent tenta le premier Adam dans le jardin, le second Adam dans l'étendue sauvage, avec des succès vraiment différents. Et depuis, il tente toujours les enfants des deux, dans tous les lieux et dans toutes les conditions. » C'est fou comme on est assailli de tentations à longueur de journée. Est-ce que vous avez remarqué ? Je crois qu'on ne le remarque même plus. Ce serait intéressant un jour de prendre le temps de noter dans une journée toutes les fois où nous sommes tentés de pécher contre Dieu et faire le compte à la fin de la journée. On a beau essayer de les éviter, les tentations, elles sont partout. La compagnie, les conversations, elles amènent des tentations. La solitude, elle amène d'autres tentations. Le travail amène des tentations. L'oisiveté, il en amène d'autres. On peut être tenté lorsqu'on mange, lorsqu'on boit. On peut aussi être tenté lorsqu'on jeûne et qu'on prie, comme Jésus le fait dans le passage. La tentation, c'est une véritable souffrance. Et c'est une souffrance que Jésus a accepté de subir pour pouvoir nous secourir. Cherchons encore en Hébreux, chapitre 2, verset 17. Hébreux chapitre 2, verset 17. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. J'ai remarqué que c'est très difficile de réconforter quelqu'un qui passe par une épreuve qu'on n'a pas connue. On est super maladroit dans ces cas-là. En fait, on est maladroit parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que la personne ressent. On ne sait pas quoi lui dire. Jésus, il a vécu les mêmes tourments que ceux que nous vivons au quotidien. Nous pouvons chercher du secours auprès de lui. Il connaît nos détresses, il connaît chacune de nos épreuves, parce qu'il les a connues lui-même. Il a partagé notre condition. Ça, c'est une des choses qui change, suite au fait que Jésus est venu partager notre condition. C'est qu'il peut nous secourir. Une deuxième chose, c'est que non seulement Jésus a combattu la tentation, mais en plus, il a eu la victoire. Jésus m'aide à avoir la victoire sur Satan. Plus je serai proche de lui, en communion avec lui, plus je serai fort. Christ est notre force pour combattre l'ennemi. Paul dit d'ailleurs en Colossiens, chapitre 1, verset 29, qu'il travaille et qu'il combat par la force du Christ qui agit puissamment en lui. Christ est notre force dans la tentation. Troisième chose qui change, on le voit tout au long de notre passage, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu. Déjà, il agit comme un signe pour montrer que Jésus est bien le Messie. Ça, c'est révélateur de ce qu'est le rôle de l'Esprit. Jésus ne vient pas sous la forme d'un aigle royal, en disant, Regardez-moi, je suis l'esprit. Non, il vient sous la forme d'une colombe. Animal des plus modestes. En fait, c'est même l'animal qui était réservé aux pauvres pour offrir des sacrifices. Et il vient se poser sur l'épaule de Jésus. L'Esprit de Dieu n'a jamais pour but de se mettre en avant lui-même. Il est là pour mettre Christ en avant. Il agit bien souvent dans l'ombre pour que Jésus soit glorifié. Mais il agit vraiment puissamment. Verset 12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. En fait, le terme d'origine, il peut même être traduit par l'Esprit jeta Jésus dans le désert. C'est quelque chose auquel il ne pouvait pas résister. L'Esprit est une force qui nous fait faire la volonté de Dieu, qui nous fait glorifier Christ. Et cet Esprit, il est où ? Eh bien, tout d'abord, il demeure sur Jésus. Et c'est en Jésus que nous pouvons être remplis de cet Esprit. C'est sur lui qu'il demeure, mais il le donne. Généreusement, on l'avait vu la dernière fois, il est venu nous baptiser dans le Saint-Esprit, nous plonger dans cet Esprit, pour que nous en soyons remplis. Alors j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire après tout ce qu'on a vu ce matin, que Jésus n'est vraiment pas un homme ordinaire. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur merveilleux que Dieu a envoyé et que Dieu a plaisir à donner pour sauver tout homme et toute femme de ses péchés. On a vu ce matin que ses premiers faits et gestes de son ministère parmi les hommes, c'était de s'identifier aux hommes. Dès le début, il s'est identifié en tout point aux hommes, il s'est fait baptiser pour la repentance, alors qu'il n'avait aucun péché. Il a accepté de souffrir la tentation. Tout cela, il l'a fait parce que c'est ce que Dieu voulait. Parce qu'il était prêt à aller jusque-là, dans son amour pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Jésus est un secours pour nous. Dans toutes nos détresses, il est une force dans toutes nos épreuves et nos tentations, parce qu'il les a toutes subies lui-même. Vous vous rappelez de ce traître qui est dans notre cœur, prêt à se rendre à toutes les tentations. Et ce que je vous invite à faire, c'est de faire confiance à Christ pour vous fortifier dans ces situations et de lui confier entièrement vos vies pour qu'il vous aide en toutes choses. Prions.